À quoi suis-je attachée? Par quoi je me laisse émerveiller? À quelle puissance je fais confiance? Certains pourraient dire « je suis attachée à Dieu », d'autres « à l'argent », sans forcément se l'avouer. On peut être attaché à des loyautés, à des principes, à ce qu'on a reçu de notre éducation. On peut être attaché à des habitudes, c'est confortable. Et puis, être attaché au pouvoir, c'est courant, on en voit des dérives tous les jours. L'être humain a besoin de s'attacher à des personnes pour vivre, et cet attachement peut se reporter sur des objets ou des liens symboliques. Toute notre vie, nous avons des choix à faire pour savoir à quoi ou à qui s'attacher. Souvent, nous les faisons par influence. Il m'est arrivé, lors de préparations de mariage, de me demander si l'un des deux suivait l'autre par confort, sans véritable discernement, et évidemment, mon travail était de le vérifier. Nous devons discerner ce à quoi nous voulons nous relier, ce qui est bon pour nous. Et ce discernement est difficile à faire parce que nous n'avons pas toujours les mêmes outils au départ pour résister à ce qui nous fait du mal. Aujourd'hui, on voit par exemple que l'attachement à nos téléphones portables devient une vraie addiction parce que par lui, nous faisons tant de choses. C'est un outil qui est devenu indispensable. Par exemple, on peut passer des heures à collecter des informations qui nous arrivent de façon indistincte. Elles nous attirent sans qu'on aille vraiment chercher si les informations sont vraies ou pas. Dans les réseaux sociaux, on cherche à avoir le plus de followers possible. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que des followers? J'ai posé la même question à la Fondation Lambrecht jeudi dernier, donc ils étaient contents que je leur donne une définition. J'ai trouvé sur un site qui s'appelle le Journal du Net, j'ai trouvé une traduction. Alors ceux qui connaissent un peu l'anglais, ils savent que follow c'est suivre, donc c'est suiveur. Mais j'ai aussi trouvé la traduction du disciple. Eh oui, le disciple. Alors, on peut dire en effet que cette notion de disciple n'est pas nouvelle. On le voit dans notre histoire, on pourrait dire que Philippe a beaucoup de followers et que Simon aussi a beaucoup de followers. Mais on va se rendre compte aussi que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui suit quelqu'un, que le message est juste. Ce n'est pas la quantité de personnes qui fait la véracité du message. Et on le voit aussi avec les influenceurs. On a parlé ces derniers temps d'une loi qu'on va mettre pour que l'influenceur... Alors, j'ai quand même regardé la définition de l'influenceur sur Wikipédia. Je la donne pour ceux qui ne connaissent pas bien. C'est une personne, donc sur les réseaux, hein, qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, est capable d'être un relais d'opinion influençant les habitudes de consommation, parfois dans un but de manipulation à visée marketing. Donc la loi demande à ce que ce soit clairement affiché quand il y a une visée marketing. En tout cas, depuis toujours, cette question s'est posée dans la concurrence des puissances. Il y a une concurrence des puissances. Et vous avez entendu dans notre récit, on nous parle de la puissance de Dieu pour Simon. Et en fait, ce qui est intéressant quand on regarde le texte, c'est qu'il y a aussi la puissance de Dieu pour Philippe, mais on ne la nomme pas de cette manière-là. Philippe, c'est un des sept hommes nommés comme diacres, donc ceux qui doivent s'occuper du service des tables. On appelle ça le service des tables, mais en fait, on se rend compte qu'ils s'occupent aussi du service de l'évangélisation comme les autres. Et puis, on va voir arriver Pierre et Jean, qui viennent de Jérusalem, Pierre et Jean qui sont les disciples de Jésus. Et on nous dit, les foules unanimes s'attachaient aux paroles de Philippe en entendant et en voyant les signes qu'il faisait. Et puis dans le même temps, un autre homme, Simon, fait des prodiges et de la magie. Le texte nous dit « Tous s'attachaient à lui, du plus petit jusqu'au plus grand. Il disait « Cet homme est la puissance de Dieu, la grande. » Donc on a vraiment l'impression que toute la population de cette ville s'attache aux deux hommes de manière indistincte. Et puis il y a ensuite dans cette ville, on ne nous a pas nommé la ville, mais il y a un mouvement de foule pour se faire baptiser. Je me suis dit, c'est un peu le rêve de tout prédicateur, ça. Tout d'un coup, tout le monde vient se faire baptiser. Et on nous dit que Simon aussi se met à croire et à recevoir le baptême. Il reçoit le baptême et il s'attache à Philippe. Évidemment, la puissance de Philippe, qui n'est pas de la magie, l'impressionne. Et en tant que magicien, il voudrait sans doute en percer le mystère, parce que pour lui, il y a un truc. Et puis Pierre et Jean viennent légitimer le travail de Philippe et ils ajoutent l'imposition des mains pour que l'Esprit Saint vienne sur les croyants. Alors c'est un peu étrange, parce qu'on se dit quand même que la foi vient de l'Esprit Saint. Ces gens qui ont demandé le baptême et qui ont reçu la foi, bon. Mais en tout cas, je me suis dit que peut-être pour Luc, qui est l'auteur des Actes des Apôtres, c'est peut-être par les disciples officiels que l'Esprit Saint devait arriver et être transmis. Et puis, vous avez entendu, Simon veut acheter le pouvoir des deux disciples. Et je me suis dit, être croyant et baptisé ne protège pas de ses envies, de son appât du gain, de sa soif de pouvoir. Rien ne l'arrête. Il pense qu'on peut tout acheter simplement parce qu'il en a le désir. Peut-on tout acheter? On sait bien que l'être humain essaye et qui va même dans des extrêmes. Le summum est évidemment d'acheter ses semblables. C'est de l'esclavage et cela existe encore aujourd'hui. Par exemple, donner de l'argent à une famille pour récupérer des jeunes filles ou des enfants qu'on gardera assujettis, qu'on livrera à la prostitution, au travail forcé, ça existe aujourd'hui. La corruption est aussi une forme d'esclavage. Quand on garde le pouvoir sur quelqu'un avec de l'argent, on sait que l'appât du gain est une fuite en avant. On en veut toujours plus. Que ce soit les petits jeunes qui ne sont pas majeurs et qu'on emploie pour les trafics de drogue, les guetteurs, vous savez, ceux qui vont alerter, ils sont tenus par cet argent. Et puis on sait aussi que les grandes entreprises préfèrent fermer les yeux sur les dégâts humains et environnementaux pour faire plus de profit. Pourtant, vous le savez aussi bien que moi, si vous êtes ici ce matin, tout ne s'achète pas. La semaine dernière, je suis allée voir le film qui s'appelle « Je verrai toujours vos visages ». Alors je vous le recommande chaudement. Le thème est sur la justice restaurative. Il s'agit de la confrontation entre des victimes d'agressions et d'autres agresseurs. Ce n'est pas ceux qui ont agressé les victimes, c'est certaines victimes et certains agresseurs. Et ce film met en lumière ce travail incroyable de patience et d'écoute de ces professionnels qui accompagne aussi bien les victimes que les agresseurs. Et il y a un travail énorme d'un côté et de l'autre avant la confrontation qui se passe en plusieurs fois. Autant les victimes peuvent recevoir une indemnité en argent, autant rien ne pourra faire disparaître la peur que cela recommence, d'être à nouveau agressé. Et dans ce film, on voit et on entend comment le mécanisme de confiance peut revenir grâce à ces liens improbables qui se tissent. Tout ne s'achète pas. Le don de Dieu ne s'achète pas. Le don de Dieu, c'est tout ce qui fait de nous des êtres vivants et des êtres humains. Dieu nous a créés à son image et notre vie entière est sous son regard. En Jésus-Christ, il nous fait le don d'une vie pardonnée, Un amour dont on n'a pas idée, cela ne s'achète pas. Le salut de Dieu se reçoit. Il se demande même, comme les disciples disent à Simon, « Repens-toi et prie le Seigneur ». Alors malheureusement, être chrétien n'empêche pas les dérives. Notre manière de nous attacher à des personnes peut nous empêcher de réfléchir. On le voit dans toutes les dérives spirituelles. On a vu comment dans sa structure même, l'Église catholique a favorisé le silence sur des actions inacceptables. Mais d'autres chrétiens trouvent aussi des moyens de manipuler leurs semblables avec d'autant plus de force que l'on se sert du domaine spirituel. Vous avez peut-être entendu parler cette semaine de ce drame au Kenya, dans la forêt de Chakaola. Un pasteur autoproclamé a mis sous son pouvoir des dizaines de personnes, des centaines de personnes. Il jouait sur la peur de la fin des temps. Il a persuadé les adeptes de cette secte, qu'il fallait jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus. Il disait aussi que les enfants ne devaient pas aller à l'école. Et du coup, on a retrouvé au moins 200 morts dans cette forêt, mais il y en a sans doute beaucoup plus. C'est un drame, et cela nous montre la puissance de l'endoctrinement et de l'idéologie. On en avait déjà connaissance au moment où les actes terroristes ont pris une immense ampleur, et on a commencé à observer le profil de ces acteurs, et on se rend compte à quel point l'idéologie est une des forces les plus puissantes jusqu'à se donner la mort. Comment discerner nos attachements? Nous avons besoin de critères. Alors j'en prends un. Dans ce que nous dit Jésus, il nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Comprenons que jamais l'attachement à Jésus-Christ ne nous mettra en danger. Il a donné sa vie pour nous, c'est pour nous sauver, ce n'est pas pour que nous nous mettions nous-mêmes en danger. Tout ce qui va dans le sens de la vie doit être respecté. Tout ce que nous lisons dans la Bible doit l'être à la manière de ce respect de la vie. Mesurons nos attachements aux objets et aux personnes, ne soyons pas dupes de nous-mêmes. La superstition doit être combattue. Les questionnements, est-ce que l'attachement que j'ai pour telle personne ou tel objet m'isole des autres, me fait exclure des personnes? Est-ce qu'il me rend dépendant? Est-ce que ma relation à Dieu est libre? Continuons à réfléchir. Servons-nous de notre capacité de réflexion, de questionnement. Ne laissons pas les logiciels numériques nous enfermer. Je me suis pris de bec cette semaine avec un serveur dans un restaurant parce que j'avais réservé une table. Enfin, quelqu'un avait réservé une table et en fait, la personne me dit il n'y a plus de table. Je dis, ah bon, on a réservé. Ah oui, mais c'est le logiciel qui? C'est terrible. Surtout gardons notre conscience. Même quand moi, j'utilise le GPS, et merci le GPS, c'est super, ça fait la paix dans les ménages, hein. Même quand je l'utilise, je regarde la carte avant pour savoir s'il ne va pas m'emmener à 3 heures d'ici. Varions nos sources d'information. Changeons les sites internet. Changeons nos journaux pour ouvrir notre esprit à d'autres points de vue et discernons en nous-mêmes ce qui est bon. Et puis, il s'agit aussi de redire que nos églises, toutes les églises, sont des organisations humaines inspirés par Dieu. Les églises tentent d'être fidèles à Jésus-Christ. Elles tentent de refléter son corps. C'est ce qu'on nous dit quand on est en train de prendre la Sainte Cène. Un corps bien imparfait, évidemment, mais un corps pardonné et aimé par Dieu. Notre Église unie est très attentive et exigeante avec la formation des pasteurs. Elle se veut un lieu pour rester libre de penser parce qu'elle permet le recul de la réflexion. Alors nous avançons vers la fête de Pentecôte. la fête du don du Saint-Esprit, cet esprit de vie. Chacun, chacune peut recevoir cet esprit sans rien avoir à débourser. C'est l'Esprit Saint qu'on peut reconnaître quand il nous révèle une parole de vie, quand il nous fait comprendre que Christ est à nos côtés. C'est lui qui nous guide vers la lumière de Dieu. Comme le dit l'apôtre Paul, nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par l'Esprit Saint. Alors demandons à Dieu ce grand cadeau pour qu'il soit à nos côtés chaque jour. C'est lui, la puissance de vie, qui nous secourt et nous soutient. Amen.